On a eu des dizaines de points de presse du trio santé depuis le début de la pandémie, mais là, celui-là, il est attendu avec beaucoup, beaucoup d'attention parce que dans quelques instants, le premier ministre François Legault va nous donner tous les détails, toutes les consignes sanitaires pour le temps de Noël. Est-ce qu'on va pouvoir se regrouper à Noël, au jour de l'an? Est-ce que l'école, les vacances vont être devancées, prolongées? On aura toutes les réponses et devant moi, ben, il y a Valérie Leboeuf de notre salle de nouvelles. Salut Valérie.
Salut Philippe.
Valérie, qu'est-ce que nous disent les dernières rumeurs?
Ben, écoute, c'est notre collègue Louis Lacroix, qui est chef parlementaire, qui, lui, ce qu'il a dit, finalement, c'est qu'il y aura possibilité de rassemblement, mais vraiment...
Alors, Valérie, je dois tout de suite t'interrompre. Parfait. Ça commence de maintenant.
D'abord, ceux qui se demandent c'est quoi le masque, c'est pour encourager l'impact. Demain, la série commence contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, on leur souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des fêtes. Ce qu'on propose, c'est de permettre les rassemblements familiaux durant 4 jours. Pas obligé de prendre les 4, là, mais il y a 4 jours qui seraient permis, 24, 25, 26, 27 décembre. En échange, donc c'est un contrat, il y a 2 côtés. Ce qu'on demande aux Québécois, c'est d'essayer de ne pas avoir de contact une semaine avant Noël, une semaine après Noël. Pourquoi? Bien, pour éviter de pousser la propagation du virus. Donc, on voudrait que pendant les rassemblements, les gens aient été confinés, dans le fond, pendant une semaine, puis après qu'ils restent confinés pendant une semaine. Donc, pour y arriver, première chose, j'ai besoin de la collaboration des employeurs. On ne réussira pas là, à ce que ça soit 100%, mais d'abord, tous les employeurs qui sont capables de faire du télétravail à leurs employés, ça inclut le gouvernement du Québec, il faut le faire. Deuxièmement, pour les entreprises où c'est possible de réduire les activités une semaine avant, une semaine après Noël, ce serait l'idéal. Donc, on le demande, évidemment, on veut pas, on l'exige pas. Pour les écoles, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de l'enseignement à distance. D'abord, si on regarde avant Noël, il y a des écoles qui déjà étaient fermées le 21-22 décembre, mais il y en a qui sont ouvertes. Bien, la plupart des écoles devaient être ouvertes aussi le 17 et le 18 décembre. Donc, ce qu'on demande, jeudi le 17, vendredi le 18, lundi le 21 et mardi le 22, qu'il y ait de l'enseignement à distance. Donc, ça veut dire, entre autres, là, que les enseignants vont travailler, vont parler une fois par jour au moins avec les étudiants, même au primaire, et il y aura du travail qui va être donné. Donc, on parle là de 2 à 4 jours, dépendamment des écoles, des régions. Pour après Noël, les écoles devaient être réouvertes, les écoles primaires. Commençons par les écoles primaires. La plupart, c'est le 5 novembre. Il y en a que c'est le 6 ou le 7 novembre. Donc, il n'y aurait aucun changement pour les écoles primaires, donc ils rouvriraient à la date prévue, 5, 6, 7 ou 8 janvier. Donc, ça serait clair. Pour ce qui est du secondaire, bon, faut comprendre qu'au secondaire, c'est un peu moins difficile de faire de l'enseignement à distance, donc on prolongerait le congé jusqu'au lundi 11 janvier. Donc, ce serait comme ça à grandeur du Québec, là, parce qu'à grandeur du Québec, on souhaite que durant les 4 jours, les familles puissent se rencontrer. Et donc, on veut idéalement avoir une espèce de confinement une semaine avant, une semaine après. J'insiste là, pour dire, c'est pas des vacances. Il va y avoir du travail de donner aux élèves. Et il va avoir un contact, soit par visioconférence, soit par téléphone, donc avec les enfants. Ce qui est important aussi d'ajouter, on a au Québec des écoles spécialisées qui donnent des services à des enfants qui ont besoin de services particuliers. Ces écoles-là vont rester ouvertes pendant toute la période qui était initialement prévue. Pour ce qui est des services de garde, ça va être la même chose que les écoles primaires. Les seuls services de garde qui vont être offerts, ça va être pour les services essentiels. Les parents, les adultes qui donnent des services essentiels, exemple, les gens de la santé, les enseignants, les gens des services de garde, donc le personnel des services de garde. Donc, si on se fie à ce qui s'est passé au printemps, ça veut dire qu'il y aurait très peu d'enfants dans les services de garde là, pendant la période du 17, 18, 21 et 22 décembre. Je reviens sur les rencontres du 24 au 27. D'abord, c'est important de préciser là, que si quelqu'un a des symptômes de la COVID, il ne faut pas qu'il aille à ces rassemblements-là. Donc, c'est important de s'isoler quand on a des symptômes. On ne veut pas aller contaminer puis se sentir après coupable d'avoir contaminé, entre autres, nos aînés, les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, il faut faire attention. Il faut tout faire pour les protéger. Puis même si on a fait une semaine de confinement avant le rassemblement familial, bien, c'est important de se laver les mains souvent durant la soirée. Puis c'est important, autant que possible, de rester à 2 mètres, surtout des personnes vulnérables. Puis ce que je veux dire aussi, pour en avoir parlé déjà avec quelques personnes, pas ma mère, là, mais ça se peut qu'il y ait des parents ou des grands-parents qui aient peur, qui trouvent que c'est trop risqué, puis qui préfèrent annuler ces rassemblements-là. Il faut que tout le monde au Québec respecte ça. Là. S'il y a des parents, des grands-parents qui disent « Moi, là, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de réunion cette année », il faut absolument respecter ça. Pour eux autres qu'on le fait, le fait qu'on ne le fera pas contre eux autres. Donc, ce que je propose, c'est un contrat moral. Donc, d'un côté, il va pouvoir y avoir des rassemblements, maximum 10 personnes, 24, 25, 26 ou 27 décembre. Mais de l'autre côté, on demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes n'aient pas eu de contact avec d'autres personnes. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait au jour de l'an? » On écoute la santé publique. Et je pense que depuis le début de la pandémie, on a écouté la santé publique. On écoute la santé publique. C'est sûr que si on permettait les rencontres le 1er janvier, bien là, ça viendrait créer des problèmes additionnels là, pour la semaine après. Donc, c'est pour ça qu'on accepte de dire il ne faut pas qu'il y ait de rencontres. Je comprends que ça peut être une logistique pas nécessairement facile. Je pense, entre autres, aux parents qui ont des enfants une semaine sur deux. Il va falloir s'arranger. Peut-être qu'il y en a un qui a des enfants le 24-25, puis que l'autre a des enfants le 26-27. Mais moi, j'ai confiance là, que compte tenu de l'urgence, la gravité de la situation, qu'on va réussir à trouver des compromis. Les parties de bureau, évidemment, sont interdits. Bon, puis tout ce que je vous propose ce soir, c'est sujet à ce que la situation ne se détériore pas d'ici le 24 décembre. Donc, ça veut dire concrètement que tous les efforts qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour essayer de limiter les contacts, bien, ça va augmenter nos chances que ça soit possible de se voir à Noël. Donc, c'est important là, de le dire. Il y a comme un « si » à ce qu'on propose. J'ai parlé des familles, mais je sais que pour bien du monde, bon, il y en a qui n'en ont plus, malheureusement, de famille, ils ont des amis. C'est permis aussi de voir ses amis pendant ces 4 jours-là. Maintenant, concernant les autres mesures, là, les mesures qu'on a mises en place au début octobre, restaurants, salles de spectacle, les gyms, la situation encore, il y a trop de cas, Puis il y a trop de pression encore sur le réseau de la santé. Donc, malheureusement, je vous annonce que ces places-là vont rester fermées jusqu'au 11 janvier. On espère qu'à partir du 11, on va être capable de les ouvrir. Ça suppose qu'il y a une baisse du nombre de cas d'ici le 11 janvier. Je comprends que c'est pas drôle pour, je pense, entre autres, aux restaurants. Évidemment, toutes les mesures d'aide qu'on avait annoncées vont être prolongées jusqu'au 11 janvier. Et on espère là que la situation va s'améliorer. Mais quand on regarde la situation un peu partout dans le monde, ben on peut se dire deux choses. Un, il y a des endroits que c'est vraiment inquiétant. Puis deux, bien, ces mesures-là, là, restaurants, gym et salles de spectacle, ce sont des mesures qui sont en place à peu près partout dans le monde. Là. Donc, je comprends que c'est une mince consolation. Je veux aussi vous dire, on travaille très fort sur la campagne de vaccination. Je l'ai dit la semaine passée, là, même si la bataille n'est pas finie, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, dès que les vaccins vont être disponibles, on va être prêt pour vacciner dans toutes les régions du Québec, selon un ordre bien précis. Donc, en terminant, je vous dirais, je vous propose aujourd'hui un contrat moral pour le temps des fêtes. Il y a un risque d'associer à ce contrat-là. C'est certain là, que de se voir pendant 4 jours ou un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça comporte des risques. Par contre, il faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma vie. Là. Donc, j'ai la chance d'avoir une épouse, 2 fils, je veux les voir. J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui a 91 ans, je ne sais pas pour combien d'années, combien de Noël il reste, mais elle, mes 2 sœurs, je veux les voir. J'ai besoin de voir ma famille. Puis il faut comprendre aussi que là, on est dans une bataille qui était longue depuis le mois de mars. Puis malheureusement, ça va continuer encore pendant un certain nombre de mois. Donc, il faut faire le plein d'énergie. Puis une bonne façon de faire le plein d'énergie, c'est de rencontrer sa famille. Je pense que le temps des fêtes, Noël, c'est un moment qui est précieux. Puis, oublions pas que la famille, là, c'est la base de notre vie. Donc, je vous remercie, tout le monde. Good evening, everyone.
Alors, Valérie Leboeuf, pendant que le premier ministre s'exprime en anglais, on va revenir pour la période des questions. Mm-hmm. Il nous propose un contrat moral. Il va falloir être prudent d'ici Noël pour profiter de 4 jours de festivités.
Oui, le 24, 25, 26, 27. En échange de ça, ben, pas de contact une semaine avant. Et une semaine après également, ce qui veut dire que les enfants vont se retrouver en enseignement à distance à partir du 17 décembre durant 4 jours, parce que pour la plupart des enfants, bien, on termine le 22 décembre. Donc, du 17 au 22 décembre, ça va se faire à la maison.
Donc, ce qui est important et ce que je note, c'est que tout le long, il s'est exprimé, surtout au début, là, au conditionnel. Et il l'a redit à la fin. Tout ce plan-là, là, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, mais attention.
Exact.
Si d'ici le 24 décembre prochain, la situation dérape, si on n'est plus capable de contenir le nombre de nouveaux cas quotidiennement, il n'y a plus rien qui tient. Là.
Non, parce que là, si on regarde juste aujourd'hui, on est à 1207 nouveaux cas. Pour la dernière semaine, c'est une moyenne de 1200 cas par jour. Donc, ça fait en sorte que si ça dégringole puis qu'on tombe dans les 1400-1500 cas, ben la situation pourrait être revue à ce moment-là.
Oui, puis il y a des régions où c'est particulièrement inquiétant. Là, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, aujourd'hui, plus de cas que dans la grande région de Montréal.
Oui, 241 cas là-bas, 200 à Montréal.
Ça, c'est stupéfiant. Là, ça, on pouvait à peine imaginer ça. Bon, pour les écoles, tu en as parlé tantôt. C'est un genre d'arrangement un peu mi-figue, mi-raisin. Mm-hmm. On dit, bon, les enfants vont pouvoir rester à la maison, mais il y aura du travail en distanciel. Il va falloir la belle collaboration des professeurs là, pour tout ça.
Oui, les enseignants vont devoir collaborer aussi, mais comme il dit, les écoles primaires vont pouvoir retourner en classe dès le début janvier. Par contre, au niveau secondaire, ben là, c'est prolongé jusqu'au 11 janvier. Le reste de la semaine, on va avancer, on va le faire à la maison. Puis encore là, ben c'est ça. Les écoles ont quand même testé. Je ne sais pas pour tes enfants, Philippe, mais moi, chez nous, on a testé ça, l'école à distance, et ça fonctionne quand même.
Ça fonctionne, mais c'est long, longtemps.
Oui,
là,
ça,
quand
c'est
tu penses
à
une session complète au cégep, là,
ah non,
où
ça,
tu ne sors pas
clair.
De ta chambre à coucher pour faire tes travaux, c'est dur. Mais encore une fois, puis je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est que c'est vraiment, c'est rare qu'on entend ça, où un premier ministre fait une proposition au peuple en disant, écoutez, moi, je suis prêt à aller là, mais il va falloir que vous embarquiez, parce que si vous embarquez pas, c'est la dérape totale.
Et j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir, parce que ça a beaucoup... sur les réseaux sociaux, les gens se sont exprimés, ils n'étaient pas contents, voulaient avoir Noël, mais là, on a Noël, mais on n'a pas le jour de l'an. Parce qu'on le dit, si on avait le jour de l'an, ben là, ça pourrait apporter d'autres conséquences. On écoute la santé publique. Alors, est-ce que les gens vont quand même être à l'écoute et décider de remplir ce contrat moral-là?
Oui, ben c'est ça. Parce que tout, au fond, repose sur une chose. C'est sur l'adhésion sociale. Mm-hmm. Parce que t'as beau faire les mesures les plus précises possibles, t'as beau dire qu'il y aura des amendes à ceux qui ne respectent pas, t'sais, on sait bien, là, on ne pourra pas trouver tous les coupables et tous les gens qui vont faire des parties. Donc, il faut que les gens embarquent. Puis ça, c'est un défi en temps normal, mais ça va être un défi encore plus grand dans le temps des fêtes, parce qu'on le sait souvent, hein, le Noël, c'est la famille, mm-hmm. puis le jour de l'an, c'est les amis. Tu sais, quand t'as 18, 19, 20 ans, je suis pas sûr que t'as le goût de passer le réveillon du jour de l'an avec tes parents. T'sais, t'as le goût de le passer avec tes amis. C'est la nature humaine qui veut ça. Alors, écoute, on va écouter la période des questions, là, ça commence à ce moment.
Bonsoir, messieurs. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, il y a un « si » à ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut définir ce « si-là »? C'est quoi le maximum de cas de décès, d'hospite qu'on peut tolérer avant de changer d'idée?
Bien, si vous me permettez, dans les faits, il n'y a pas de chiffre précis exactement. Là. C'est sûr que le nombre de cas, s'ils vont en augmentant, ils vont générer plus d'hospitalisations, et aussi nombre de cas, plus d'éclosions, plus de difficultés à contrôler les éclosions. Donc, on rentre dans un cycle où là, on voit une augmentation importante et là, il faut falloir qu'on évalue la question de la capacité hospitalière parce que rapidement, même si on a des lits et des appareils, ça prend du personnel aussi pour le faire, puis l'augmentation des cas, on peut avoir du personnel malade. Fait que il n'y a pas de... Je vous dirais, là, c'est sûr que certains seuils, là, on voudrait vraiment rester en deçà de ce qu'on a actuellement, là. Idéalement, de maintenir, aller en deçà, parce que dans certaines régions, déjà, ça met une pression sur le système. Fait que c'est vraiment une analyse épidémiologique. Puis je tiens à vous dire encore, là, que c'est important, cette nouvelle-là, qu'on nous donne de l'espoir pour pouvoir faire un Noël en famille, en sécurité. Mais c'est très clair que c'est conditionnel aux efforts qu'on va faire d'ici Noël pour stabiliser et réduire la courbe. Chacun des contacts que vous diminuez est majeur. Et c'est pas non plus parce qu'on va donner la permission de 4 jours qu'il faut absolument fêter les 4 jours absolument. Plus on augmente les contacts, plus on potentialise. Je pense qu'il faut adapter ça à un Noël actuellement, puis il faut surtout pas baisser la garde. Même pendant les réunions de famille, on va vous donner des indications, comment faire les choses. Il faut garder la distanciation, le couvre-visage, puis l'hygiène des mains au maximum. Donc, je veux répéter ça, là. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, là. Au Québec, on est dans une situation qui est stable actuellement, fragile, mais stable. Mais si on veut se rendre à Noël, puis on veut profiter de ces moments familiaux qui sont très importants, je tiens à marteler ce message-là. Il faut vraiment qu'on observe les consignes qui sont là. Et avec les mesures qu'on a là, on prend un risque parce que tout rassemblement, Dr. Fauci le dit aussi au CDC, tout rassemblement familial, quand il y a la transmission importante, ça contribue à augmenter les cas. Mais on comprend très bien qu'on ne peut pas arriver à empêcher les gens de se voir. Mais le contrat moral que dit le premier ministre est majeur. Et on va suivre la situation de jour en jour et espérant qu'on va être capable de maintenir le nombre de cas et d'hospitalisations à ce niveau aussi.
Merci. En suivi, j'aimerais ça savoir s'il y a une possibilité que la décision ou que le contrat qui est offert aujourd'hui devienne à géométrie variable selon les régions. On voit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est exponentiel aujourd'hui l'augmentation. Est-ce qu'il y aurait des régions qui pourraient se voir interdire ça et d'autres pas?
Bien, comme je le disais dans une réunion précédente, un, on veut garder ça simple. Deux, peu importe la région où on est, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se protègent, évitent les contacts une semaine avant, une semaine après, peu importe la couleur de la région. Donc, ça s'applique à tout le monde.
Puis, si vous me permettez, M. le Premier ministre, il y a encore un mois quand même d'ici Noël. Et donc, on a déjà vu dans d'autres régions qu'à l'intérieur d'un mois, on était capable d'inverser une tendance. Donc, j'invite les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à le faire pour qu'ils puissent passer un beau Noël en famille.
Merci. On va passer au Journal de Montréal.
Oui, bonjour. Nora Lamontagne du Journal de Montréal. Ma question est pour le Dr Arruda.
Docteur Arruda, vous avez déjà dit que vous vous attendiez à une augmentation des cas après les fêtes. Et là, on apprend que les gyms, les cinémas, les salles de spectacle pourraient reprendre leur activité à partir du 11 janvier. Est-ce que c'est pas leur donner un faux espoir de faire miroiter cette réouverture-là à cette date-là?
Si vous me permettez encore, je pense qu'on a fait, écoutez, l'analyse là, sur le temps des fêtes, là, ça fait depuis 2 mois qu'on regarde toutes les possibilités, OK? Et on ne sait pas où on va être dans 2 semaines ni à Noël. Par contre, ce qu'on se dit, je pense qu'on essaie de donner une perspective aux gens. On donne une perspective pour que les gens puissent s'organiser pour le temps des fêtes dès maintenant. Toujours conditionnel au fait qu'il va falloir contrôler le nombre de cas. On accepte, comme dit le ministre, un risque, je vous dirais, d'augmentation d'un certain nombre de cas, mais contrôlé, si vous me permettez, versus une nécessité de se revoir, d'offrir à nos aînés, j'appellerais un Noël, qui est... il faut les protéger, il ne faut pas les isoler. Il faut respecter leur choix aussi, quelque part. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on abaisse, justement, le nombre de cas actuellement au Québec, qu'on diminue les hospitalisations, je veux dire, la période de confinement avant, la période de fait de ne pas avoir de fête au jour de l'an, va nous aider probablement à nous rendre en janvier dans un état où on pourrait même revenir un peu à ce qu'on est là, mais qui permettrait probablement d'ouvrir avec des conditions très particulières des milieux qu'on considère à moins risque. Je pense qu'il faut se donner cet espoir-là.
En sous-question. Oui, en sous-question, en parallèle, si on veut, vous parlez de réunions de maximum 10 personnes pendant le temps des fêtes. Il y a 4 jours, il y a toutes sortes de raisons de se réunir pendant les fêtes. Est-ce que ça doit être tout le temps les mêmes 10 personnes qui se réunissent? Ou non. Est-ce qu'il y a cette idée de bulle-là aussi qui est encore présente, de familles différentes?
Écoutez, dans le temps des fêtes, on a voulu rendre ça simple. Hein? Je veux dire, c'est sûr, moins on a de réunions dans ces 4 jours-là, mieux c'est. Hein? Je veux dire, c'est pas parce qu'on vous permet de fêter 4 jours que vous voulez nécessairement fêter 4 jours. On sait que le nombre de 10, c'est un nombre qui est reconnu aussi un petit peu ailleurs. C'est un nombre où... Et là, on avait parlé avant 3 familles, 2 familles, des bulles, pas de bulles. Là, on a voulu rendre ça plus simple pour être souple et flexible en fonction des réalités des différents types de personnes. OK? Donc, quelque part, ça peut être des personnes différentes. Si vous faites 2 rassemblements, ça peut être 10 personnes différentes actuellement. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui vivent ensemble pour éviter d'augmenter la probabilité de contagion. Mais je pense que si on est réaliste, hein, je pense que ça, c'est souple, flexible, ça peut s'adapter à la réalité de certaines familles, des gens qui ne vivent pas ensemble, qui partagent les enfants, des célibataires qui ont des amis qui veulent voir, etc. Mais le principe, c'est permis pendant ces périodes-là. Faites le minimum que vous trouvez acceptable, pas besoin de faire le maximum, mais on vous laisse une certaine latitude. Il ne faut pas dépasser 10, c'est comme ça, puis ça doit se passer entre le 24 et le 27.
Merci.
On va passer à Véronique Dubé, TVA Nouvelles.
Bonjour, ma question va s'adresser à M. Roberge. Donc, on pense à de l'enseignement virtuel. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas Internet et qui sont déjà durement touchés depuis le début de cette pandémie?
Bon, d'abord, vous avez raison de parler d'enseignement. On ne parle pas d'étendre la période de congé ou de vacances de Noël. Donc, on convertit certains jours de présence en classe en des journées d'apprentissage à distance. Pour les jeunes du secondaire, il n'y a pas d'enjeu. On a suffisamment de tablettes, d'ordinateurs dans le réseau pour répondre à tous les besoins à la grandeur du Québec pour les élèves qui n'ont pas un outil dédié à eux à la maison. Donc ça, c'est clair. On n'en a pas suffisamment pour tous les élèves de toutes les écoles primaires, mais il faut dire aussi que pour nos plus petits, de toute manière, je veux dire, leur autonomie pour vraiment manipuler un ordinateur ou une tablette, c'est pas présent. Et de toute façon, ils ne peuvent pas non plus être des heures. Ils n'ont pas la même capacité d'attention pour dire, bien, je suis en apprentissage à l'ordinateur plusieurs heures. Donc, je pense que on arrive avec quelque chose qui est tout à fait adapté à la réalité des jeunes. Au secondaire, ils sont capables de le faire. On est équipés pour le faire. Au primaire, il va y avoir un suivi quotidien. Les enseignants sont tout à fait d'accord. J'ai parlé avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, j'ai parlé avec l'Association professionnelle des enseignants du Québec. Ils nous ont dit, mais on n'en veut pas de congé, là. On veut assurer un suivi auprès de nos élèves. On peut faire un suivi, un contact à tous les jours, Puis il faut dire qu'on parle de 2 à 4 jours. Hein. En décembre, là, pour les écoles primaires, c'est de 2 à 4 jours, parce que dès janvier, ils retournent en classe.
Donc, en sous-question, je pense encore aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean où le taux de positivité aujourd'hui est le double que Montréal. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, prévu seulement 2 jours dans les régions où c'est vraiment rouge et où ça brûle plutôt que 4 jours?
Peut-être, non. Je pense que pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, peut-être avant de passer la parole au Dr Arruda, je pense qu'au Saguenay, il faut leur donner encore quelques jours pour se replacer, là, parce que ça a été très, très difficile. Puis, comme vous savez, quand on regarde le nombre de cas, notamment, il faut regarder une moyenne de 7 jours. Parce que là, en ce moment, là, il y a eu des problèmes du côté de certains équipements qui ont empêché les tests d'être faits. Il y a eu des délais dans les laboratoires. Ça n'a pas été un bout facile. Alors, moi, j'attendrai encore quelques jours parce que j'ai l'impression, premièrement, qu'on va voir avec toute l'aide qui leur a été envoyée. On leur parle. On est vraiment en support. On est en appui particulièrement pour le traçage, parce que c'est ça qui est important, comme vous savez, au début. Fait que je pense que pour le Saguenay, là, étant donné tout ce qui arrive en ce moment, j'aimerais mieux attendre quelques jours, puis on vous tiendra informé, mais je pense que les choses vont se placer, selon moi.
Merci.
On va passer à François Carabin, Journal Métro.
Bonjour, messieurs. Donc, évidemment, vous permettez les rencontres avec maman, papa, grand-maman, grand-papa, des personnes qui peuvent dépasser les 60 ans, donc peuvent se rapprocher de la situation plus à risque là, par rapport à la COVID-19. Quels sont vos conseils aux personnes de plus de 60 ans, si on veut? Monsieur Legault, peut-être Monsieur Dr Arruda pourrait répondre aussi.
Premièrement, on ne force pas personne à se rassembler, comme le disait le premier ministre. Si quelqu'un est anxieux et que ça l'inquiète, il faut respecter ça. Je pense qu'on... Puis on va fournir, là, au cours des prochaines semaines, à tous les Québécois des consignes pour les aider à recevoir, à se réunir de la façon la plus sécuritaire. Je pense que, par exemple, je vais vous donner juste un exemple pour comprendre. Il ne faut pas nécessairement que grand-maman tienne le petit bébé là, de la famille ou le jeune enfant pendant 3 heures ou pendant 8 heures. Elle peut participer à la fête. On peut essayer de maintenir une distance avec eux. C'est sûr que les confinements avant, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vont aider à ce que si quelqu'un a des symptômes, surtout là, vous avez des symptômes, vous restez chez vous, vous allez vous faire dépister, puis vous n'allez pas voir grand-maman. Vous la verrez quand vous serez mieux après. Là, je pense que c'est bien important. Donc, je pense que ces gens, on veut protéger nos aînés, mais on ne veut pas les isoler. Ça, je pense que c'est important. Fait que ils peuvent venir à la maison, ils vont s'installer quelque part, on va avoir une certaine distance dans le salon par rapport à eux. Si jamais il y a un contact, c'est un contact qui devrait être court, on peut porter le masque, ça va aider. Puis ne pas rester plus que 15 minutes, là, même idéalement moins longtemps, proche des grands-parents, mais ils vont pouvoir être là, partager le repas avec nous, etc.
Merci. Et en suivi, je voulais savoir, peut-être M. Dubé, quelle est la capacité de dépistage et à quel point pouvez-vous l'augmenter au courant des fêtes là, pour s'assurer que toutes les personnes qui ont besoin d'être testées soient testées?
Ah, tout à fait. Alors, pas plus tard que ce midi, en début d'après-midi, je parlais encore avec les PDG de tous les 6 et 6 parce que il faut le planifier à l'avance parce que la minute qu'on a pris cette décision-là, il faut être conscient qu'il y aura des gens dans les jours qui vont suivre, qui vont vouloir probablement se faire tester. Alors, ils vont probablement avoir une augmentation de tests. On est capable de les faire maintenant parce qu'on sait qu'on a monté jusqu'à plus de 35 000. Donc, je pense que l'enjeu au niveau du dépistage va être réglé, puis on va avoir le personnel pour le faire. Mais je vous dirais, regardez la progression qu'on a eue. Je parlais encore cette semaine au bureau de Mme Drouin, on est rendu à plus de 200 personnes et plus à Montréal seulement qui font du traçage. On a augmenté notre capacité de traçage dans toutes nos régions à plus de 2200 personnes. Même, je pense que les chiffres sont un petit peu plus élevés. Là. Je vous donnerai une mise à jour. Alors, donc, on va avoir tout le personnel nécessaire, autant au niveau du dépistage que du traçage. Puis, la bonne nouvelle aussi que je vous annonce aujourd'hui, là, on vient de mettre en ligne... Là, la fameuse plateforme dont on parlait depuis longtemps, donc la plateforme où le questionnaire va être sur le site web en direct. Donc, ils vont encore plus faciliter la période de dépistage et de faire le suivi en traçage. Donc, on est vraiment prêt pour cette période-là. Il s'agissait juste de mettre la date, ce qui était très facile à faire en passant. Hein? Et maintenant que la date est là, ben tout notre personnel est en train de se préparer pour être prêt.
Merci à vous.
On va passer à François Garriépy, Radio X.
Bonjour à vous quatre. Une question peut-être encore pour commencer avec pour M. Roberge. C'est concernant les examens du ministère prévus en fin d'année scolaire pour les secondaires 1, 2, 3, 4 et 5, sachant que la valeur des bulletins de janvier et de juin sont de 50 % chacun et que le taux d'échec sera beaucoup plus élevé que les années antérieures, selon plusieurs professeurs avec qui on a discuté. Quand annoncerez-vous la façon de compiler les notes scolaires pour cette année, sachant que le taux d'échec risque d'être historique? En fait, est-ce que vous allez alléger les matières, en fait, ou encore alléger les notes, la valeur des bulletins?
C'est une question intéressante sur l'évaluation. Laissez-moi vous dire que d'abord, on a fait plusieurs ajustements depuis le début de l'année. On est en contact direct avec les directions d'école, avec les enseignants, avec les professionnels qui aident les élèves en difficulté. Encore aujourd'hui, mon cabinet est en conversation avec notre comité d'experts. Donc, on a fait plusieurs changements. Puis, on peut s'ajuster encore un peu, mais je vous dirais qu'on en a fait beaucoup, là. On est passé de trois périodes de bulletins à deux. Il y a un gain là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de temps passé dans les évaluations, un petit peu plus dans l'enseignement. On fait baisser le stress aussi sur l'angoisse de voir arriver un premier bulletin, alors qu'en début d'année, on faisait beaucoup de rattrapage. En remettant le bulletin à la fin du mois de janvier, on fait baisser un peu l'angoisse, on fait baisser un peu le stress, on se donne le temps de finir notre rattrapage avant de voir la matière de l'année. Ensuite, on a pondéré les bulletins. De manière que c'était fait, les derniers bulletins avaient une grande, grande, grande importance, ce qui fait que les jeunes, des fois, ont l'impression que tout se joue en quelques semaines. On a pondéré ça. Pour les examens ministériels aussi, il n'y en a pas à chaque année des examens ministériels. Hein. C'est quatrième année du primaire, sixième année du primaire, et puis il y en a secondaire 2, 4 et 5. Pour les examens ministériels, on a pondéré aussi, on a besoin de mesurer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il va y avoir des échecs cette année de manière exponentielle ». Moi, je pense qu'on a mis vraiment beaucoup de choses en place. On a embauché des professionnels, on a décentralisé la prise de décision, on a remis les écoles entre les mains des équipes écoles. Je pense avoir un impact sur la réussite. Puis quand on aura les examens ministériels, dont on a diminué, encore une fois, la valeur sur le résultat final pour baisser l'angoisse, on pourra vraiment mesurer le succès de nos élèves. Mais il faut se laisser le temps. Moi, je pense qu'il va y avoir de très beaux succès parce que nos enseignants au Québec sont capables de s'adapter aux besoins des élèves puis d'en donner un peu plus à ceux qui en ont besoin d'un peu plus.
Merci de votre réponse. J'aurais peut-être en sous-question à M. Legault. Début octobre, le ministre Fitzgibbon annonçait de l'aide aux restaurateurs jusqu'à 15 000 $ pour payer les frais fixes, soit le loyer, les taxes, les assurances. Malheureusement, plus de 50 jours plus tard, plusieurs restaurateurs ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas encore reçu les sommes. Quand allez-vous verser les sommes aux restaurateurs promises en début octobre?
Oui. Bien, écoutez, j'ai pas une date précise, là, mais je sais que Pierre Fitzgibbon est très au courant là, qu'il y a des délais à certains endroits, dans certaines régions, entre autres pour les plus petits restaurants. Donc, il travaille très fort là, pour que ça soit envoyé le plus rapidement possible, mais je pense que ça devrait être dans les prochaines semaines.
Merci à vous.
Véronique Lauzon, la presse.
Pour vous, M. Legault, vous nous avez dit mardi qu'il pourrait y avoir des petits changements dans les mesures pour les activités, peut-être pour les jeunes. Avez-vous des détails?
On continue de discuter avec la santé publique. J'aimerais ça permettre aux jeunes de faire du sport. Dans les arénas, c'est à l'intérieur, même s'il y a beaucoup d'espace. Il y a les ronds à patiner extérieurs, je me rappelle des beaux souvenirs. Donc, on continue les discussions.
Et ça va bien, les discussions?
Alors, Valérie Leboeuf, on attendait depuis longtemps, plusieurs jours, les consignes sanitaires pour le temps de Noël. On en sait maintenant, on les connaît, mais tout ça, il y a un gros, gros conditionnel. C'est un contrat moral que le premier ministre Legault propose aux Québécois.
Oui, exactement. Donc, si on réussit finalement à se confiner avant, à se confiner après et surtout à garder les chiffres comme ils sont présentement, ne pas faire en sorte que ça augmente au niveau des nouveaux cas, au niveau des hospitalisations également, bien là, à ce moment-là, on va pouvoir célébrer Noël. nouvelle. Mais encore là, avec la distanciation et même le port du masque, ça m'a surpris un
peu.
Oui,
tout à fait. Ça semble indiquer le port du masque dans les rassemblements à l'intérieur quand on sera 10 personnes. Alors, on va voir comment tout ça va se décliner dans le pratico-pratique. Il y aura peut-être d'autres questions précisément sur ce sujet-là. Mais on a hâte aussi d'entendre le point de vue de notre ami Luc Ferrandez. Mm-hmm. Salut, Luc.
Bonjour, bonjour.
Luc, on va pouvoir fêter, mais pas trop.
Effectivement, hein, beaucoup de contraintes. D'ailleurs, vous venez d'en parler, le port du masque, c'est... Moi, je me demande toujours, quand je regarde une mesure, l'applicabilité. Ouais. Parce que quand on dit, la personne âgée, elle va pouvoir venir, on va l'installer dans un coin, on va aller la voir à tour de rôle, hey, ça ressemble à une fête avec Kim Jong-il, ça. Moi, on est peut-être capable de le faire, tu sais, mais ça me semble surprenant.
OK. Luc, t'es bien parti. Reste là. Okay. On fait une petite pause, puis tu vas développer ta pensée à saveur nord-coréenne.
Ouais, d'accord.